imagine parfois le vent soufflé de grains de sable, un panoramique insatiable, glissant d'envers en endroit, une aspérité longitudinale, un pont Lévesque miroitant, un arc-en-ciel phénoménal, piétinant le soleil couchant.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, rencontre avec Patrick Vivray. Ça ne va pas si mal. Patrick Vivray, on pourrait être dérouté par votre livre. D'abord son titre. Pourquoi ça ne va pas plus mal? Alors ça pourrait aller plus mal. Et en même temps, quand on l'ouvre, dès les premières pages, vous dressez un tableau assez effarant de la situation. Alors, qu'est-ce qui va mal et qu'est-ce qui ne va pas si mal?
Pourquoi ça pourrait aller plus mal? Ben, c'est parce que si nos sociétés étaient conformes à ce qu'on voit, par exemple, au journal télévisé de 20 heures, normalement, on devrait être dans des sociétés beaucoup plus dures, beaucoup plus compétitives, beaucoup plus marchandisées, beaucoup plus violentes encore qu'elles ne le sont. Or, en réalité, quand on regarde une journée, par exemple, de sa propre vie, la plupart de nos rapports avec autrui sont plutôt des rapports de coopération que de compétition. La plupart de nos rapports sont non marchands. Il y a quantité d'éléments non comptables qui ont une valeur essentielle, comme la beauté, comme la sérénité, comme l'amitié, comme l'amour, etc., qui jouent un rôle décisif dans nos vies. Bref, il y a quantité d'éléments qui font que, fort heureusement, nos sociétés ne ressemblent pas au miroir qui leur est tendu. Et c'est ce qui permet d'aller repérer toutes ces forces de vie dont on a bien besoin pour faire face à la lucidité sur des risques qui, eux, sont bien réels.
Et oui, parce que quand même, ça ne va pas si bien.
Alors, tout à fait, c'est pour ça que ça pourrait aller plus mal, mais ça pourrait aller beaucoup mieux que ça ne va, parce que c'est vrai que l'humanité est à un moment critique de son histoire, où c'est une espèce très jeune, l'humanité, comparée à d'autres espèces animales, et elle est à un moment critique où elle risque la sortie de route, de la même façon que dans le rameau hominien, à plusieurs reprises, ce rameau a failli disparaître. Il n'a pu progresser que parce que sa vulnérabilité l'a amené à construire, au contraire, des progrès dans l'ordre de la conscience. Et là, nous sommes devant un enjeu de même nature, sauf que ça n'est pas un enjeu biologique, c'est un enjeu politique et culturel, c'est-à-dire c'est dans l'ordre de l'humanisation qu'il faut réussir ces rendez-vous critiques de l'humanité. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs risques majeurs. Alors, évidemment, il y a tous les risques qui sont liés aux défis écologiques. À force de considérer la nature, comme le disait Bacon, la nature est une femme publique, il nous faut en pénétrer les secrets, la plier à nos désirs. Cette posture tout à la fois machiste et anti-écologiste, qui a été celle du productivisme industriel, nous en payons toutes les conséquences. Le problème climatique n'en étant que l'une des faces. Mais il y a aussi des rendez-vous critiques qui sont liés au cocktail explosif de l'humiliation et de la misère d'un côté, des armes de destruction massive en circulation d'autre part, des formes d'intégrisme troisièmement, qui font que on peut très bien avoir des risques d'utilisation et pas de dissuasion par armes de destruction massive. Il y a des risques qui sont liés au mésusage de la révolution du vivant. L'humanité est en train d'acquérir la capacité de se produire elle-même. Que va-t-elle faire de ce pouvoir? La grande question « science sans conscience n'est que ruine de l'âme » n'a jamais été aussi actuelle. Donc, du côté de la lucidité, du côté du pessimisme de l'intelligence, pour reprendre la formule fameuse de Romain Rolland, popularisée par Gramsci, Nous avons effectivement un certain nombre de rendez-vous critiques. Mais je dirais, nous sommes dans une situation mendésienne. C'est-à-dire, nous avons devant nous un certain nombre de Dien Bien Phu, écologiques, sociaux, financiers aussi, parce que ça fait partie des risques majeurs et sur lesquels, là, pour le moment, il n'y a même pas de plan hors sec qui sont prévus en cas de catastrophe financière. Il nous faut à la fois tout faire pour prévenir, pour montrer qu'on peut éviter ces risques et ces catastrophes, mais il nous faut aussi préparer les conditions, si elles se produisent par aveuglement et irresponsabilité, pour rebondir positivement après ces catastrophes. Parce que si je reste dans la métaphore des accords de Genève, réussir l'après Dien Bien Phu, c'est un enjeu au moins aussi considérable que la prévention des catastrophes. Entre une catastrophe mal gérée qui débouche sur de la panique, du pillage, de la violence et du désespoir, et une catastrophe bien gérée qui crée de la solidarité, qui crée évidemment de la rareté, mais une rareté répartie solidairement, donc qui ne crée pas de la misère, et qui est aussi, qui maintient de l'espoir dans l'essentiel, alors que la catastrophe mal gérée, elle est source de désespoir. Il y a donc des différences fondamentales.
Vous allez très loin et très vite, Patrick Vivray, puisque on n'a pas commencé cet entretien depuis 5 minutes, que vous annoncez en quelque sorte que la catastrophe est incontournable. La vraie question, c'est comment gérer la catastrophe, à vous entendre. Avant d'en arriver là, et on va y revenir certainement, on peut et on doit certainement se poser la question de comment est-ce qu'on est arrivé à cette catastrophe. Alors, dans Terre à Terre, on s'est toujours attaché à essayer d'établir les liens, les jonctions, pour recréer une sorte de cohérence entre des faits qui paraissent assez éclatés. Et j'ai été frappée en vous écoutant que là encore, on peut avoir le sentiment qu'il y a d'un côté les risques écologiques, d'un autre côté les risques que vous attribuez à l'humiliation et à la misère, qui sont ceux d'un déséquilibre politique et sociale croissant. Il y a également tous ces risques, ceux que vous avez appelés un mésusage du vivant, qui sont en fait les risques liés à la galopade effrénée des technosciences, qu'on appelle les technosciences. Il y a des liens entre tous ces risques qui semblent s'y éclater.
Alors, il y a effectivement des liens. Je reviens 30 secondes sur votre question, parce que je ne dis pas que la catastrophe est inévitable. Hein. Si je reste dans la référence mendésienne ou mendésiste, je dis il est possible. Il y a déjà des catastrophes qui ont commencé, qui se sont déjà produites, mais il est tout à fait possible d'en éviter de plus importantes encore. Il faut tout faire. Moi, je suis pas du tout dans une logique de politique du pire ou de catastrophisme de ce point de vue-là. Il faut tout faire pour prévenir, l'empêcher, etc. Mais je dis, il faut aussi se préparer. Et d'ailleurs, le lien entre ces deux postures, c'est que on ne peut, comme l'a bien montré Jean-Pierre Dupuis dans son livre Pour un catastrophisme éclairé, on ne peut véritablement prévenir les catastrophes que si on y croit suffisamment. Si le risque est une pure probabilité statistique, on a toujours mieux à faire que de s'en occuper. Si on croit pour de bon qu'il y a des risques majeurs, alors on est capable de convaincre, de proposer des solutions alternatives. Alors, j'en viens maintenant au cœur de votre question, qui est le lien entre le risque écologique, l'ensemble formé par le cocktail humiliation, misère, risque de violence, de guerre, de civilisation, et puis le mésusage de la révolution du vivant. Et le lien, il est lié à cette triple rupture de communication qui est celle de nos sociétés, qui est lié à la fois à la rupture de communication avec la nature et le cosmos, rupture de communication avec autrui, si je considère autrui comme un rival menaçant avec lequel je dois me préparer à être en permanence en compétition, voire en guerre, je suis en rupture de communication, et en rupture de communication avec soi-même, avec l'intériorité. Et l'ensemble constitue un mal-être extrêmement profond dans nos sociétés, et ce mal-être est d'autant plus important qu'il est compensé par un désir de possession dans l'ordre de l'avoir sous toutes ses formes. Alors ça peut être l'avoir du côté de la richesse monétaire, et ça donne les formes délirantes de l'économie financière, mais ça peut être de l'avoir en termes de pouvoir de domination sur autrui, ça peut être de l'avoir en termes de recherche effrénée de gloire, etc. Et ce désir de possession dont Gandhi montrait bien qu'il était à la source majeure du mal-être, a pour conséquence d'aller créer artificiellement de la guerre économique, alors même qu'il n'y a pas de raison économique pour cette guerre. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation, et je le montre en prenant les chiffres les plus officiels, où, en tout cas du point de vue monétaire, il y a très largement pour permettre à l'ensemble de l'humanité non seulement de sortir de la famine, d'avoir accès à l'eau potable, aux soins de base, à un logement décent, etc., mais même d'avoir un niveau de confort qui aurait fait rêver des sociétés il y a quelques siècles. Et la raison pour laquelle nous avons près d'un milliard d'êtres humains qui sont en situation de famine ou de malnutrition, 2 milliards qui vivent sans accès véritable à l'eau potable, pareil sur les soins de base, et l'ensemble vivant avec moins de 2 ou 3 dollars par jour, toutes ces raisons ne sont pas dues à des raretés réelles, mais à des raretés artificielles qui sont provoquées par de la captation de richesse, par de la captation de pouvoir ou par de la captation de savoir.
Une fois n'est pas coutume, Patrick Vivry, j'aimerais bien que vous donniez quelques chiffres, parce que ce que vous venez de dire là, c'est tout à fait saisissant quand on lit pourquoi ça ne va pas plus mal. Il y a des chiffres qui sont ahurissants. Par exemple, la croissance, la fameuse croissance.
Oui, bon, sur ce point, il suffit de reprendre les chiffres officiels, aussi bien des Nations Unies que de la Banque mondiale que de l'OCDE. Par exemple, si vous comparez le rapport entre ce qu'on pourrait appeler le nécessaire et le superflu, les Nations Unies nous disent avec 50 milliards de dollars supplémentaires par an, on pourrait éradiquer la faim, permettre l'accès à l'eau potable, assurer les soins de base, d'un point de vue strictement économique et technique. Évidemment, avec les technologies sur le terrain et avec les gens sur place. Si on demande aux multinationales de l'eau d'aller assurer l'accès à l'eau potable, ça coûtera 10 fois plus cher. Mais si on joue vraiment la carte de la capacité des peuples, par exemple, à se nourrir eux-mêmes, on peut faire des progrès absolument considérable. Sur le terrain de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a sorti un rapport très intéressant qui montre qu'avec un investissement minime en matière de santé, le retour sur investissement, si j'utilise le jargon économique en vigueur, permettrait d'avoir l'équivalent de 360 milliards de dollars par an de bénéfices à cause des 8 millions de morts évitées et autant d'incapacités qui sont aujourd'hui produites par des maladies que l'on sait par ailleurs soigner. C'est pas tout n'est pas comme un problème aussi dramatique que le sida. Donc nous sommes en présence d'une situation où d'un côté on prétend ne pas pouvoir trouver ces 50 milliards de dollars et de l'autre côté on va en dépenser 10 fois plus pour l'ensemble des dépenses liées à l'économie de la drogue au sens large, 10 fois plus 500 milliards de dollars rien que pour la publicité, et 20 fois plus 1000 milliards de dollars pour l'armement. C'est-à-dire, si je prends en termes passionnels ces chiffres, pour y appliquer la phrase de Gandhi sur l'humanité a suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de tous, mais en revanche, elle n'en a pas assez s'il s'agit de satisfaire la cupidité ou le désir de possession, ça veut dire que pour les 50 milliards de plus qu'on n'arrive pas à trouver, vous avez de l'autre côté 2000 milliards de dollars qui gèrent de la peur et de la domination, l'armement, qui gèrent de l'excitation compensatoire au mal-être, des stupéfiants, et qui gèrent au mieux du superflu, la publicité, et au pire, si on prend les phrases célèbres de Patrice Lelay sur l'économie de l'attention, une forme d'hypnotisation extrêmement dangereuse de nos sociétés. Donc ces 2000 milliards de dollars, en réalité, ce sont des coûts du mal-être. Et on dit souvent à propos du chômage que l'activation de dépenses passives est une nécessité. Eh bien, s'il y avait une activation des dépenses qui servent aujourd'hui du côté du mal-être pour mettre en œuvre de véritables politiques de bien-être, des politiques de bien-être sur le temps de vie, non seulement ça permettrait de régler les problèmes des situations de sous-humanité, des problèmes de misère, de pauvreté, etc., mais ça permettrait aussi, et c'est l'essentiel, de dégager les conditions d'une véritable économie de l'être ou du bien-être, qui serait à ce moment-là, cela va de soi aussi, et peut-être même d'abord, une écologie du bien-être.
Si on revient à ce que vous disiez précédemment, que toute ce tableau que vous êtes en train de dresser serait dû à une triple rupture, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, rupture d'avec l'environnement, enfin d'avec le cosmos, rupture d'avec autrui, rupture d'avec nous-mêmes. Comment est-ce que vous datez, si j'ose dire, je ne vais pas vous demander la date de naissance de ces trois ruptures, mais à quoi est-ce que vous les imputez et vous les attribuez?
On peut presque les dater parce que pour l'essentiel, ces trois ruptures correspondent à la phase sombre de l'entrée dans la modernité. Il y a évidemment une phase de lumière de la modernité, je serai le dernier à la contester. La phase de lumière de la modernité, c'est l'émancipation sous toutes ses formes, c'est la partie positive du processus d'individuation, ce sont les progrès de la connaissance, hein, tout ce qui a permis à nos sociétés de sortir d'un rapport au cosmos, mais qui était un rapport clos et fermé par la représentation religieuse, ou un rapport à un lien social qui était davantage de l'ordre du contrôle social que du lien social. Mais à côté de cette phase de lumière de la modernité, il y a cette phase sombre.
Pourquoi ?
Cette phase sombre, elle est liée au fait que pour assurer cette émancipation dans des sociétés qui étaient marquées par un lien religieux, mais un lien religieux qui était fermé, qui était identitaire, hors de l'Église, point de salut, et c'était vrai aussi bien pour chacune des grandes religions, la façon de sortir de cet enfermement-là, ça a été de chosifier la nature. Dieu et le cosmos se trouvant réunifiés, il fallait, pour pouvoir prendre des distances et des libertés en quelque sorte avec Dieu et la religion, en prendre avec la nature. Et cette phrase de Francis Bacon que Serge Latouche cite dans son livre « Décoloniser l'imaginaire », qui est cette phrase terrible, « Il nous faut considérer la nature comme une femme publique », etc., le montre bien. Et donc le prix que nous avons payé, que Max Weber avait appelé le désenchantement du monde, fait que nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle phase historique. Et cette phase historique, c'est la clôture de cette modernité que nous avons connue, et la question comment en garder la phase positive, parce que ça n'est évidemment pas par des régressions pré-modernes auxquelles nous appellent les différents fondamentalismes, aussi bien celui de George Bush que celui de Ben Laden, qui est la solution. Mais il nous faut sortir de cette période de la modernité en gardant le meilleur, l'émancipation, la liberté de conscience sous toutes ses formes, et en retrouvant ce qui était le meilleur des sociétés de tradition sans en avoir le pire, et ça c'est l'ouverture au cosmos, c'est l'ouverture au lien social, et c'est l'ouverture à la quête spirituelle, en précisant que la quête spirituelle, elle peut parfaitement être athée ou agnostique, et il peut y avoir, à contrario, des matérialismes religieux qui n'ont rien à voir avec de la recherche spirituelle. Et ce défi-là de la sortie positive du cycle ouvert par la modernité, c'est vraiment le défi de notre temps. Et puisque j'utilise le mot temps, je dirais que la modernité a été ouverte par Galilée et par la quantification du temps. Nous voyons bien ce que la quantification du temps a permis comme progrès dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de la science et de la technique, et nous voyons bien aussi les effets pervers de cette quantification. Nous ne pouvons vivre à la bonne heure, nous ne pouvons vivre intensément nos propres vies, et c'est vrai individuellement comme pour l'aventure collective de l'humanité, que si nous retrouvons la qualité du temps. Et quand on est dans la qualité, on a besoin de sortir des mesures et de la quantification. Et donc, sortir par le haut de la modernité, c'est, dès lors que nous nous sommes donné les moyens, comme on dit, de gagner du temps. Nous n'avons jamais eu autant de machines à économiser le temps, et pour autant, nous n'avons jamais été aussi obsédés par le temps, aussi obsédés par la vitesse. Eh bien, c'est ce renversement qui est à la fois culturel, politique et comportemental, qu'il nous faut inventer pour entrer dans une phase de l'humanité où la qualité de temps et donc la qualité de vie devient aussi un projet politique tout autant qu'un projet personnel.
Vous avez dit là plusieurs choses importantes, donc on va essayer de retracer un chemin pour ne pas s'égarer dans tous ces bosquets, parce que chacun finalement appelle un petit chemin différent. Alors on va essayer de faire un trajet construit dans tout ça. C'est vrai que dans les chiffres que je vous demandais de citer, il y avait celui des gains de productivité.
Le temps de travail dans le temps de vie moyen est aujourd'hui tombé aux alentours de 10% du temps total de vie. Hein. C'est-à-dire sur une moyenne de vie qu'on peut calculer en heures, qui va être à peu près de 700 000 heures, le temps moyen consacré au travail au sens économique classique du terme, il va être autour de 70 000 heures. Alors, un peu plus, un peu moins, suivant les cas, mais c'est de cet ordre de grandeur-là.
Et c'était combien auparavant, mettons, il y a 50 ans?
Oh ben, il y a 50 ans, c'était à peu près 50% du temps de vie global. Hein. En tout état de cause, faut toujours se souvenir que un élément essentiel du temps de vie, c'est le sommeil. Et moi, je plaide, par exemple, pour un débat sur des politiques publiques sur la qualité du sommeil, parce que à l'heure de la révolution de l'intelligence, nous savons à quel point maintenant le sommeil est un temps fondamental pour la créativité de l'intelligence. Et on devrait accorder au moins autant d'importance à ce quart ou à ce tiers de temps de vie où nous dormons pour réunir des conditions positives du sommeil que sur d'autres sujets. Mais donc même dans des sociétés où le temps de travail représentait une place considérable, le temps de sommeil restait un point essentiel. Mais dans la partie de temps éveillé, c'est vrai que ce qu'on appelle les progrès de productivité nous ont permis de produire beaucoup plus de biens et même de services dans la partie standardisable des services avec un temps qui est toujours plus réduit. Donc la question, c'est à quoi servent ces gains de temps? Normalement, nous devrions être dans la situation que décrivaient d'ailleurs aussi bien Marx qu'Adam Smith ou Keynes, pour prendre des courants d'économistes très différents, où on aurait la possibilité de s'occuper des questions sérieuses, vraiment intéressantes. Passer du règne de la nécessité au règne de la liberté, comme disait Marx. Construire la république philosophique, comme disait Smith.
Mais oui, mais justement, Patrick Vivret, on voit bien que c'est pas le cas. Vous dites, on produit beaucoup plus en beaucoup moins de temps. Il n'empêche que ceux qui travaillent, et ça c'est aussi quand même une précision importante, tout le monde ne travaille pas. Aujourd'hui, il y a aussi de plus en plus de chômage. Donc ce temps libre, c'est aussi du temps qui est mal vécu, parce que vécu dans le malheur, de toute façon. Mais ceux qui travaillent ne travaillent pas moins. Et on voit bien qu'aujourd'hui en France, le patronat se bat contre les 35 heures pour ceux qui avaient réussi à les obtenir, ce qui est loin d'être la totalité des travailleurs en France. Mais ce gain de temps dont vous parlez, est-ce qu'il est autre chose que comptable, statistique ?
Alors, d'abord, il y a deux aspects dans votre question. Il y a le fait que ce gain de temps considérable pour l'ensemble des sociétés, il est inégalement réparti. On peut dire que les inégalités dans la répartition du temps sont aussi graves que les inégalités dans la répartition de la richesse monétaire. Donc il faut aussi se battre pour une vraie démocratisation dans l'accès au temps gagné. Sinon, ce sont toujours les mêmes qui sont pressurés. Et quand on dit « je suis pressé » en termes de temps, ça exprime bien aussi la pression tout aussi bien physique que psychique, que sociale, qui est réalisée. Et puis, l'autre aspect de votre question, c'est que, comme nos sociétés continuent à s'organiser, non seulement économiquement, socialement, mais aussi culturellement et mentalement, sur ces 10% en moyenne de temps de vie, eh bien, on pressure de plus en plus ce temps-là. Prenez un exemple tel que ce qu'on appelle à tort les retraites. Parce que c'est absurde de parler de retraite. En réalité, on rentre dans un nouvel âge de la vie qui est en général un temps où on va pouvoir avoir une activité d'autant plus intense et motivante que justement c'est l'activité qu'on aura librement choisie. Mais si on continue à définir l'activité au sens réducteur du terme, à ce moment-là, on va parler de retraite et on va dire que le déséquilibre entre les prétendus actifs et les prétendus inactifs va s'aggraver et du même coup, on va être amené à d'autant plus pressurer les temps de travail dits productifs pour devoir aller financer les 90% de temps de vie qui seront considérés comme un productif. Or, c'est là qu'il faut faire l'inverse. En prenant des vraies politiques de temps de vie, c'est-à-dire qui considèrent que depuis l'accompagnement de la naissance jusqu'à l'accompagnement de la mort, c'est un enjeu évidemment pour l'individu que de devenir chef de projet de sa propre vie, mais c'est aussi un enjeu pour la société. Parce qu'un être humain qui n'a pas la possibilité d'exercer son métier d'être humain, d'exercer son ministère d'humanité, d'une façon ou d'une autre, il va coûter très cher à la société. Et quand je disais on peut réinvestir des dépenses passives considérables qui sont du côté du mal-être dans une véritable économie du bien-être et des temps de vie, je veux justement indiquer que plutôt que de passer notre temps à pressurer encore davantage le temps de travail que nous vivons, nous pouvons au contraire mutualiser en quelque sorte ces gains de temps de façon à laisser sur des plages de vie la possibilité de nous consacrer beaucoup plus à rétablir la communication avec l'univers. C'est à la fois la beauté et la science, avec nous-mêmes, le développement personnel et la quête de sens, avec autrui, vivre les rapports à autrui comme des rapports de coopération avec des compagnons de voyage et non pas comme des rapports avec des rivaux menaçants.
Des compagnons de voyage pour le voyage de la vie, c'est ce que vous sous-entendez par là. Et là, on arrive à une partie que je trouve particulièrement étonnante et intéressante de votre livre, c'est ce parallèle que vous faites entre l'individu et la société, entre la psychologie de l'individu et la psychologie de la société. Vous le faites et vous vous référez à des maîtres qui ne sont pas n'importe qui, puisque l'un des premiers, c'est Keynes, un économiste. On ne l'attendait pas dans ce rôle-là, mais il est très très bien dans son contre-emploi. Et puis il y a évidemment Freud, et puis il y a Georges Bataille.
Oui, et je trouve intéressant de les rapprocher parce que tous les trois ont écrit la même année, en 1930, donc en plein dans la grande crise économique et dans ces années qui préparent le déferlement du processus guerrier et des grands processus totalitaires, trois textes absolument prophétiques et qui ont justement pour point commun d'être à l'intersection d'approches psychologiques, culturelles, politiques et économiques. Alors, évidemment, on pense à Malaise dans la civilisation ou dans la culture de Freud, qui pose l'hypothèse que les lois psychiques ne valent pas seulement pour les individus, mais qu'on peut aussi les formuler sur le plan des sociétés. Mais l'étonnant, c'est effectivement de mettre en rapport Freud avec Keynes et Bataille. Alors Keynes, c'est la partie très peu connue de Keynes, y compris des économistes qui se prétendent keynésiens, et où justement Keynes, dans Perspective économique pour nos petits-enfants, le dernier chapitre des essais sur la monnaie, commence son chapitre en disant « Nous ne vivons pas une crise économique ». Alors c'est quand même incroyable, nous sommes dans une récession majeure à la suite de la crise de 29. Il dit « Nous ne vivons pas une crise économique, nous vivons, dit-il, une crise de l'économique ». Et il précise sa pensée en disant « Pendant des siècles, les sociétés ont été organisées autour de la lutte contre la pénurie et la rareté, donc de l'économique ». Et d'une certaine façon, elles ont tellement bien réussi à sortir de la rareté qu'elles sont confrontées aujourd'hui à un problème qui est inédit pour elles, qui est le problème de l'abondance, ou pour prendre les termes de l'époque, les problèmes de surproduction. Et ajoute Keynes, si nous ne sommes pas capables de vivre une mutation culturelle qui est à la hauteur de cette mutation technico-économique qui nous a fait sortir de la rareté, nous allons, dit-il, vers une dépression nerveuse collective. Il parle même de dépression nerveuse universelle. L'hypothèse de Keynes, qui est déjà très forte pour comprendre la crise des années 30 et le déroulement tragique de la suite, la guerre, les faits totalitaires, elle est encore plus actuelle à notre époque, puisque nous ne sommes plus dans du capitalisme industriel à base matérielle, nous sommes pour l'essentiel dans du capitalisme informationnel et financier à base immatérielle, et où les enjeux d'image, les enjeux symboliques, donc les enjeux psychiques, sont déterminants. Et donc, si on suit cette hypothèse, on en arrive à cette conclusion très hétérodoxe, mais à mon avis éclairante pour notre temps, qui est que nous sommes en présence d'une guerre économique sans cause économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rareté réelle qui la justifie, mais il y a des raretés artificielles qui sont provoquées par des régressions de nature psychique qui tiennent à cette dépression nerveuse collective. Parce que de la même façon qu'un individu confronté à une situation inédite, on sait bien que souvent son comportement c'est la régression. Il revient à des systèmes de défense construits dans l'enfance, par exemple, et tout le rôle d'une thérapie va être de dire « Écoutez, madame, monsieur, vous avez 40 ans, arrêtez de répondre avec vos systèmes de défense antérieurs ». Là, tout se passe comme si nos sociétés réagissaient à de l'inédit culturel, qui était bien exprimé par exemple par la fracture des années 68, par de la régression qui, en refabriquant artificiellement de la rareté par de la guerre, effectivement, nous ramène dans un univers culturel connu, qui est celui du manque, qui est celui de la lutte, qui est celui des gagnants et des perdants, et nous dispense d'affronter les vraies questions qui sont devant nous et qui appellent à se poser les questions en termes d'être et non pas d'avoir.
Mais là, l'inédit, Patrick Vivray, c'est l'abondance. C'est-à-dire que le fait d'être passé d'une économie de survie à une économie d'abondance serait ce traumatisme qui aurait créé la dépression nerveuse.
En partie, en tout cas, si on suit Keynes, on peut dire oui, l'inédit est l'abondance. Et le troisième auteur que vous citiez tout à l'heure dit la même chose, Georges Bataille, puisque Bataille, on le connaît surtout sur ses texte concernant l'érotisme, mais il y a toute une partie économique de Bataille. Et Bataille dit, nous sommes obsédés par la petite économie régionale qui est organisée autour de la rareté, mais si on regarde la grande économie, qui est l'économie énergétique, qu'est l'écologie. Ce qui est frappant, c'est la surabondance et non pas la rareté. Par exemple, l'énergie solaire. Or, Bataille nous dit, si nous ne savons pas dépenser, c'est pour ça que son texte paru lui aussi en 1930 et qui deviendra après le premier chapitre de La part maudite s'appelle La dépense, Bataille nous dit, si nous ne savons pas dépenser, eh bien, on finira par le faire, mais en quelque sorte, de façon régressive et pathologique. Et la guerre est évidemment la forme de régression majeure qui permet de dépenser un surcroît d'abondance que l'on n'aura pas utilisé. Donc si on ressaisit ces trois textes, si on les met en rapport, celui de Freud, celui de Keynes, celui de Bataille, alors à ce moment-là, ça nous conduit à porter un regard nouveau sur la nature de nos problèmes contemporains. Et il s'agit évidemment pas d'aller annuler les situations de sous-humanité provoquées par la famine, le manque d'accès à l'eau potable, les soins, etc. Mais il s'agit de dire, et les chiffres des Nations Unies que j'évoquais tout à l'heure le confirment, que ces raretés sont provoquées artificiellement par de la captation de richesses, de pouvoir et de savoir, qui est elle-même liée à cette dépression nerveuse collective et singulièrement à la dépression nerveuse collective de ce qu'on appelle l'Occident.
Mais tout de même, il faut vous expliquer un peu davantage, parce que l'abondance est toujours présentée comme au contraire le rêve de tout un chacun. On a le sentiment que l'abondance, c'est la sécurité, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Et là, vous êtes en train de nous dire, abondance égale dépression, égale angoisse, égale régression.
Alors, abondance n'est angoisse, dépression et régression que si on ne sait pas vivre ce rapport à l'abondance. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que la plupart du temps, on considère a priori que l'abondance est de l'ordre du rêve et du rêve simple. Et que ce qui est compliqué, c'est la lutte contre la rareté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les grands économistes étaient persuadés que le jour où on aurait fait le plus difficile, qui était de sortir de la rareté, eh bien, après, les choses deviendraient plus simples. Quand Adam Smith dit dans La richesse des nations que ensuite l'humanité pourra construire la république philosophique, ou quand Marx parle d'entrer dans le règne de la liberté après celui de la nécessité, il y a au fond l'hypothèse que, libérés de la rareté, les choses vont devenir plus simples, plus fluides, plus heureuses. Je crois qu'il faut faire l'hypothèse exactement inverse. Le plus difficile n'est pas la production et le combat contre la rareté. Ça, c'est relativement simple à faire. Le plus difficile, c'est construire ce qu'Adam Smith appelait la république philosophique. Pourquoi ? Parce qu'il est plus difficile pour des êtres humains, individuellement et collectivement, de se poser la question du pourquoi vivre quand on sait qu'on va mourir, que de se poser la question du comment survivre. Parce que le comment survivre, la réponse est inclue dans la question. J'ai soif, je cherche à me désaltérer. J'ai faim, je cherche à me nourrir. La question du pourquoi vivre, c'est une question autrement plus difficile. En outre, l'abondance crée des situations de vertige. Et nous pouvons le vérifier à chaque fois que nous sommes, par exemple, confrontés à une situation d'abondance dans le domaine de l'information, qui est une situation que chaque être humain aujourd'hui pratiquement peut connaître dans nos sociétés, ou une abondance dans nos possibilités de relations. Nous découvrons à ces occasions-là que si nous n'avons pas construit un projet de vie suffisamment structuré, de façon à avoir des repères qui nous permettent de sélectionner dans cette abondance, eh bien à ce moment-là, nous partons dans la dispersion, dans la dilution. Donc, nous vivons à la mauvaise heure nos propres vies. Et apprendre culturellement, psychologiquement, politiquement, démocratiquement, à traiter la question de l'abondance, c'est un enjeu, je dirais, d'éducation populaire absolument majeur. L'abondance ne va pas de soi, et parce qu'elle ne va pas de soi, quand elle n'est pas traitée comme telle, effectivement, l'abondance conduit à la dépression. Et la dépression fabrique de la rareté artificielle, notamment par la guerre économique.
va rester dans le portrait psychologique parce que là, vous venez de très clairement démontrer les liens entre ces traits psychologiques et certaines situations économiques, celles que nous vivons aujourd'hui et depuis un certain temps, et sans doute pour un certain temps encore. Mais ce portrait psychologique, il est aussi à la base d'une réflexion politique. Vous dites très justement que la grande erreur qu'ont commis aussi bien les libéraux que les marxistes, c'est d'envisager l'être humain comme une sorte de perfection. Soit l'être humain est parfaitement bon, soit il est parfaitement mauvais, mais en tout cas, il est l'un ou l'autre. C'est une sorte de portrait en noir et blanc. Et vous vous dites non, l'être humain n'est pas pur. Et la démocratie, c'est justement de construire quelque chose à partir de cette impureté humaine.
Oui, l'être humain est un être métis. C'est un être ambivalent sous toutes les formes. Et la question la plus passionnante, mais aussi la plus difficile, c'est justement la mixité de l'humanité, aussi bien dans nos comportements individuels que dans l'enjeu collectif de l'aventure humaine. Et il est vrai que tant les libéraux que les marxistes, mais ils ne sont pas les seuls à qui on puisse adresser ce reproche, ont eu, à mon avis, une vision réductrice sur le plan anthropologique. Au fond, en traitant l'être humain simplement comme un mammifère rationnel, doué de besoins. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ils auraient eu raison tous les deux, ces grands courants, parce que dans l'ordre des besoins, comme les besoins sont auto-régulés par la satisfaction, on peut plaider le fait qu'un marché d'offres et de demandes des besoins finit par s'auto-réguler, thèse libérale, ou on peut plaider aussi que une conscience rationnelle, par exemple à travers la planification, permettrait d'arbitrer entre besoins prioritaires et non prioritaires, collectifs et individuels, etc. Le point aveugle de ces traditions, c'est cette vision réductrice. Elle résonne essentiellement en termes de besoins et de rationalité, et l'énorme corps calleux intermédiaire qui est créé justement par l'irruption de la conscience de la mort, et la conscience de la mort, elle crée aussi de la lutte contre la mort, donc du désir. Et c'est la question du désir et de l'angoisse qui est la question la plus difficile chez les êtres humains. Et quand on est dans l'ordre du désir, donc de la passion, on est dans l'ordre de l'illimité. Et s'il y a un mésusage de ce désir, de la même façon qu'avec le désir on peut déplacer des montagnes, au sens propre comme au sens figuré, c'est aussi avec du désir et avec de l'angoisse que on peut commettre des génocides, des Auschwitz, des Hiroshima. Donc la grande question, c'est effectivement comment l'humanité fait avec sa propre inhumanité. Et là où c'est une question politique passionnante et renouvelée, c'est que par rapport à ce qu'est le métier par excellence du politique, qui est la question de la limitation et de la réduction de la violence, il y a un changement de nature qui est en train de s'opérer. Traditionnellement, le politique traitait cette question en externalisant la violence sur l'extérieur. Le barbare, l'étranger, l'infidèle qui était aux portes de la cité, de l'État, de l'Empire. Quand nous sommes dans la mondialité, ou bien nous sommes dans la régression, et c'est la régression de ce que j'appelle l'axe Bush-Ben Laden, c'est-à-dire nous refabriquons des axes du mal où nous disons le mal, ce sont les autres, mais ça c'est clairement de la régression, et il n'y a aucune possibilité d'émergence d'une régulation mondiale sur cette base-là. Mais si nous voulons sortir par le haut de ce dilemme, cela veut dire que l'humanité est bien confrontée à un problème de barbarie, mais pas de barbarie extérieure, de barbarie intérieure. L'humanité doit traiter la question de sa propre inhumanité. Et c'est là que le politique est confronté à un problème que la sagesse a évoqué depuis longtemps, qui est justement comment traite-t-on la question de l'inhumain à l'intérieur de l'humain. Il y a bien une question du mal, mais cette question n'est pas une question extérieure, c'est une question intérieure. Et à ce moment-là, l'enjeu démocratique devient fondamental, parce que la démocratie doit, à mon sens, être considérée comme l'équivalent pour une collectivité du travail sur soi que fait un individu dans sa quête de sagesse, dans sa quête de joie de vivre, parce que pour moi, la sagesse est tout sauf ascétique. La sagesse, elle est profondément de l'ordre de la joie de vivre, elle est profondément de l'ordre de l'éros. Et cette démocratie-là, il faut lui donner toute sa dimension qualitative et pas quantitative. Ça n'est pas la loi du nombre qui impose un rapport de force, ce sont les conditions qui permettent à un ensemble de citoyens dans une communauté politique de construire un jugement et de pas en rester seulement au stade de l'opinion. Et de faire ce travail qui permet justement ce que j'appelle les écosystèmes émotionnels ou les émosystèmes, à créer des conditions non seulement écologiques et sociétales, mais aussi psychiques, qui font que ce soit plutôt le meilleur de l'humanité que le pire de l'humanité qui puisse s'exprimer.
Et ça, donc, vous le disiez, c'est politique, et seule la démocratie est garante de ce type de processus. Vous faites également beaucoup référence à la sagesse, et là, la sagesse, vous la trouvez plutôt en Orient, ou alors une autre de vos références, c'est la sobriété heureuse que défend Pierre Rabhi, par exemple.
Fondamentalement, c'est la même chose, c'est-à-dire toutes les traditions de sagesse, et d'ailleurs il y a des très grandes traditions occidentales de sagesse, hein, qu'on pense à Épicure, qu'on pense à Socrate. Pour donner un exemple de sagesse dans les religions du livre et les traditions occidentales, l'une des plus belles phrases de l'histoire de l'humanité, elle a été prononcée par Augustin, saint Augustin, « Aime et fais ce que voudra ». Ce qui est une phrase extrêmement profonde, puisque justement, quand on est au cœur de l'exigence de l'amour, la nature du respect amoureux va conduire à fixer un certain nombre de limites qui fait qu'à ce moment-là, l'amour ne sera pas de l'ordre du désir de possession. Donc, il y a un pluralisme des traditions spirituelles, un pluralisme des sagesses, mais elles ont en quelque sorte un point commun. Et ce point commun, c'est de nous dire la joie de vivre, le bonheur, au sens de capacité à vivre à la bonne heure, n'est pas de l'ordre de la possession. Comme le disait Dostoïevski, celui qui possède sera possédé. Donc le cœur de la sagesse, c'est effectivement non pas du tout un ascétisme, c'est la joie de vivre au sens le plus fort du terme, tel que Spinoza la décrivait. Et on peut dire que le projet politique pour notre temps, pour notre siècle, la capacité à faire émerger une forme de citoyenneté planétaire, c'est de dire Homo sapiens, ça n'est évidemment pas une origine, ça se saurait, nous sommes plutôt, comme dirait Edgar Morin, dans l'Homo sapiens des minces, mais si ça n'est pas une origine, ça pourrait être un projet. Et non seulement un projet individuel, mais aussi un projet collectif, un projet politique démocratique au sens le plus fort du terme. Et à ce moment-là, ça veut dire que nous avons besoin d'une mutation qualitative de la démocratie. Et il y a un lien entre démocratie et intelligence, parce que les neurologues nous disent que nous utilisons à peu près seulement 10% des potentialités de notre intelligence. Il en est de même pour la démocratie. La démocratie, au stade actuel, elle a rempli une fonction historique fondamentale, qui a été de démilitariser la lutte pour le pouvoir. Mais elle n'a pas changé la nature du rapport au pouvoir. C'est resté une démocratie exprimée essentiellement sous une forme quantitative et de rapport de force. Or, pour traiter la plupart des grandes questions dont nous parlons, questions planétaires, questions personnelles, questions des nations, des régions, des continents, etc., nous avons besoin d'une démocratie à haut niveau de qualité d'intelligence collective, de qualité relationnelle et je dirais aussi de qualité émotionnelle. Parce qu'on ne peut prendre le risque de l'intelligence, qui est le risque du droit à l'erreur, que quand on est aussi dans des conditions de sécurité affective. C'est la question fondamentale de l'intelligence du cœur, c'est-à-dire une intelligence qui ne soit pas simplement dans l'ordre de la rationalité stricte, mais qui est capable de mobiliser les sensations, les émotions au service d'une intelligence collective.
Patrick Vivret, vous dites que ça ne va pas si mal aussi parce que cette intelligence collective, elle est déjà en marche, même si ça se passe à l'écart des grands médias.
Elle est en marche, oui. C'est d'ailleurs pour cette raison que la dernière partie du livre s'appelle « Un autre monde est possible ». D'autres manières d'être au monde sont déjà là. Et il faut s'appuyer sur ces autres comportements, ces autres forces de vie, ces autres façons de consommer, ces autres façons de penser un rapport entre projet de vie et projet professionnel, ces autres façons de pratiquer la démocratie. Par exemple, le projet Objectif Civique 2007 auquel j'ai la chance de participer, c'est une nouvelle façon de se réapproprier, une façon de faire de la politique autrement. Et tout ça existe déjà aujourd'hui. Ça n'est pas de l'ordre de l'utopie au sens d'un ailleurs impossible à atteindre. C'est dans la réalité actuelle et il faut aller repérer toutes ces forces de vie, toutes ces germes d'espérance qui sont déjà présentes dans notre réalité ici même pour nous donner de la force pour faire ces transformations structurelles plus importantes.
Et cela, je reviens sur le terme parce que ça me paraît important, dans un projet politique, parce que vous réfutez l'opposition qu'on fait assez volontiers entre société civile et politique, le politique.
Je crois que le nouveau terme qui est en train d'émerger, c'est celui de société civique. C'est-à-dire, il y a une légitimité très importante de la société civile, mais il y a toute une partie des forces de la société civile qui ont compris qu'il y a des enjeux interconnectés entre les différents problèmes écologiques, sociaux, sanitaires, etc., et que ceci est l'enjeu même du politique démocratique, mais qui pense que le politique doit changer dans sa façon de faire de la politique. Et c'est pour ça que nous parlons de société civique qui est au cœur de la transformation de la société politique elle-même.
Voilà, cette émission est terminée. Si vous voulez obtenir une bibliographie, vous savez que vous pouvez nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou encore consulter notre site internet franceculture.com. Vous y retrouverez Terre à Terre à la rubrique émissions ainsi que notre revue de presse web hebdomadaire. Vous pouvez bien évidemment nous écrire également à Terre à Terre, Franceculture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage, Pascal Baranzelli, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.